Pierre-Louis, la maison sur le Nil ou les apparences de la vertu. Amaryllis s'étendit toute languissante sur la mousse et du bout de sa branche de saule toucha la main du plus jeune homme. « À toi, dit-elle, parle à ton tour, Clignas, je veux un conte de toi. » Clignas hésita quelque temps. J'ai retenu les légendes que tout le monde connaît, mais je ne sais pas, comme Thrasès, les façonner selon mon esprit, ni comme toi, les renouveler par la grâce des mots. Amaryllis. Je dirai ce que m'a raconté mon ami Bion de Clazomène à son retour d'Éthiopie. C'est une histoire vraie ? Demanda Rhea. Oui, mais j'aime que vous la teniez pour une fable. Et que les personnages vous semblent suivis de l'ombre de leurs symboles. Si j'avais quelque talent, il me faudrait peu de soin pour faire de cette courte histoire un poème en hexamètre, peut-être seulement la généraliser. Le soleil brillait très ardent au-dessus de la haute forêt, et la fraîcheur sous les feuilles en était plus délicieuse. Des taches de lumière caressaient Lampito, qui avait ramené sa chevelure sur son visage pour protéger ses yeux fermés. Amaryllis était près de Rhea. Philinna jouait avec ses mains, Mélandrion regardait la terre. Alors Clignas commença ainsi. Chapitre 1. Au-delà de Thèbes et de Hermontis, au-delà de Silcilis et d'Ombos, Bion avait remonté le Nil. Même il avait passé l'île Éléphantine, où finit la terre d'Égypte, et il s'avançait vers la noire Éthiopie, qui est proche des bornes du monde. Il n'avait pas de barque pour vaincre le cours lent du Nil, du fleuve, car il eût fallu des esclaves pour manœuvrer les avirons, et il avait craint de s'imposer des compagnons sans intérêt. Aussi voyageait-il à pied, le long des rives molles et herbues, si étroites que la route longeait parfois le pied des falaises multicolores, où commençait exactement l'infini montueux du désert. Cette mince bande de terre vivante entre deux mornes solitudes, cette voie de champs d'or et d'herbes splendides, fendue jusqu'aux deux horizons par la lumière verte du Nil, retentissaient de cris d'oiseaux, stridents et pressés, dans l'air, sur le fleuve, sous les herbes hautes, fourmillant aux branches nues des baobabs obèses, comme d'étourdissantes cigales, perpétuellement. Des autruches et des girafes arpégeaient au loin les prairies. Des troupeaux d'antilopes fuyaient comme des nuages blonds. Les singes se suspendaient en grappes fantastiques aux souples branches des sycomores, et parfois dans la vase du Nil, où se suivaient comme de longues fleurs les pas effilés des ibis, Bion contemplait avec étonnement la formidable empreinte humaine laissée par ce mystérieux amanite, bête que les hommes n'ont jamais pu voir, mais dont les Éthiopiens font d'étranges récits. Et Bion, inquiet, se persuadait que les colosses de granit rose, sculptés dans l'épaisseur des montagnes, allaient pendant les solitaires nuits se baigner jusqu'aux genoux dans le fleuve saint qui est père de tout. Car, si loin de Thèbes et de Memphis, les restes de la splendeur égyptienne duraient encore en pays impie. Depuis longtemps, les autochtones avaient repris la terre sur les conquérants, et pourtant la face de Ramsès était pour jamais gravée aux falaises, par les souverains du Nord avaient donné leur forme aux roches que le ciseau des esclaves a pu entamer, mais que le temps ni Zeus ne détruiront plus. C'était l'hiver. Les nuits s'enveloppaient de fraîcheur brumeuse. Les jours éthérés persistaient dans l'accablement. Bion cherchait l'ombre et les sources dans les forêts de Mimosa, où les lions se retiraient du soleil et dormaient jusqu'au lever du soir. C'était là aussi que vivaient les hommes barricadés dans leurs cabanes par des palissades de dattiers, Bion était leur hôte de nuit en nuit, et les quittait au premier matin. Chapitre 2. Or un soir, enfin, s'écria Lampito. Tu parles bien, dit poliment Philina, mais tu es trop pompeux. Et puis pourquoi nous as-tu donné une petite description de l'Égypte avant de commencer ton récit? Oh, je suppose que cela n'a rien à voir avec la suite de l'aventure. Soyez indulgente, répondit Clignas. L'histoire de Bion est très simple. Je pourrais vous la dire en deux mots, mais ensuite, il faudrait en trouver une autre, et la chaleur ne me permet pas cet effort d'imagination. D'autre part, c'est une courte scène qui ne saurait être développée. Il faut bien que je la prépare avec quelques phrases inutiles, si je veux avoir fait un conte de la même longueur que les autres. Tout cela est sans réplique, ne m'interrompez plus. Un soir, comme il avait marché longtemps sous un rayonnement douloureux, et que déjà ses pieds fatigués portaient la marque tressée des courroies, il approcha d'une maison brune et verte, élevé seul au bord du Nil avec de la vase sèche et des stipes en croisée. Des palmiers lourdement chevelus croissaient nombreux autour d'elle, et elle était à ce point envahie par les larges herbes du fleuve qu'on l'eût dite flottante sur l'eau même ou en péril dans un marais. L'épaule reposée contre un arbre, Bion immobile regarda. Deux jeunes filles, devant l'ouverture de la porte, rieuses par moments, se parlaient. L'aînée était debout dans une grande étoffe bleue à franges, nouée sous les aisselles, drapée jusqu'aux genoux. Ses innombrables cheveux noirâtres étaient séparés en mille petites tresses minces et dures, qui encadraient de près un visage aux yeux luisants et aux grosses lèvres, et ne retombait pas au-delà de ses délicates épaules carrées. Elle pliait les reins à une barrière basse. Elle riait un peu et balançait la tête. La plus jeune n'était pas vêtue, car elle était presque une enfant. Elle se tenait assise sur ses talons, la tête penchée entre les genoux, et piquait de petites fleurs jaunes entre ses oreilles, orteils écartés. Il les regardait vivre et ne se montrait pas. Il contemplait la maison. Ce lieu, mystérieux comme tout ce qui apparaît pour la première fois, lui semblait défendu parce qu'il avait l'étranger, le solitaire et d'inconnu. Une famille vivait là. Depuis combien de temps? Quelle quantité de tristesse et de bonheur furtif avait fait joyeuse ou morne cette hutte de boue et d'arbres? Qui l'avait bâtie? Qui l'avait habitée? Quelle mort, quelle naissance avait-elle veillé? Il sentait que tout ce qu'il pourrait apprendre ne lui dirait jamais rien sur elle, et qu'à jamais ce coin perdu lui demeurerait impénétrable. Le soir se levait rapidement, Bion enfin se montra. Aussitôt, les deux filles, avec de petits cris, se retirèrent vers la maison ouverte. Mais il n'approcha pas et dit simplement « Je demande l'hospitalité. » « Le père est au champ, » répondit l'aîné. « Attends qu'il soit venu, il t'accueillera. » Bion appuya son bras contre un arbre et tourna ses yeux vers le Nil, importuné par les regards curieux qui se fixaient sur sa personne. Longtemps après le soleil couché, l'Éthiopien arriva, suivant un bœuf blond aux cornes effilées. Et dès qu'il parlut, les deux filles parlèrent à la fois. « Il y a un étranger, il demande hospitalité. »« Oui, oui, il est seul, là, près de l'arbre. Nous ne l'avons pas laissé entrer avant ton retour. Nous avons bien fait, père. » Le maître fit trois pas dans l'obscurité et dit à voix haute « Sois le bienvenu, entre chez moi. » Quand ils furent entrés dans la salle et qu'on eut allumé les lampes de notre terre cuite, « Ah, voici l'eau, le pain, les fruits !» dit l'Éthiopien. Ils burent et mangèrent. Et l'hôte ne parlait pas, sachant qu'il est indiscret de poser des questions à qui n'y a pas répondu d'avance. Celle dont le corps brun était drapé de bleu apportait des mets versés l'eau des cruches. La cadette s'était reculée jusqu'à la paroi terreuse et les mains serrées sur la bouche considérait l'étranger. Quand le repas fut accompli, l'hôte se leva. « Il est temps de gagner ton lit, je sais les devoirs de l'hospitalité. Voici mes deux filles, la plus jeune n'a pas connu d'homme encore, mais elle est déjà à t'approcher. Va et prends ton plaisir avec elle. » Bion n'ignorait pas cet usage, et il le vénérait comme une tradition de vertu singulière. Les dieux visitent souvent la terre, habillés en voyageurs, en soldats ou en bergers, et qui reconnaîtrait un mortel d'un Olympien qui ne veut pas se nommer ? Bion était peut-être Hermès. Il savait qu'un refus de sa part eût été pris pour un outrage. Aussi n'eut-il ni surprise ni gêne quand l'aîné se pencha vers lui et découvrit ses jeunes seins pour les lui donner à baiser. Sans parler, sans bouger, l'enfant regardait leur scandale et se tenait la tête en avant, les mains retombées comme en rêve. Après un instant de pâleur, tremblante, prête à pleurer, elle se précipita dans la porte ouverte. La nuit se referma sur elle. Le père, alors, levant les bras à son tour, marcha jusqu'au seuil et plongea les yeux dans l'ombre profonde, où sa fille emportait à jamais l'honneur perdu de sa maison. Chapitre 3. Le soleil était brûlant quand Bion s'éveilla et prit son sac de peau pour continuer sa route. La maison déserte. Il regretta de ne pas rencontrer l'hôte, mais ne s'étonna point de ne pas revoir la compagne de la nuit. Elle avait trop de sagesse pour se livrer à un adieu. Il se mit en marche. Le chemin qu'il suivait le long des roseaux du Nil était si éblouissant qu'il le quitta bientôt pour un petit sentier qui traversait les champs marécageux et se dirigeait vers le bois. Un hippopotame endormi avait écrasé tout un champ de riz sous sa vaste chair lilas et rose, et la dévastation qui l'entourait était le fait de sa gueule poilue. Bion l'eut rapidement dépassé. Peu de temps après, il entrait dans l'ombre des mimosas. Un cri joyeux l'arrêta, un cri si tendre, si reconnaissant, si gonflé de bonheur parfait, que Bion se retourna vivement avec un sourire involontaire. La petite fugitive était là, devant ses pieds, nue comme la veille, un peu timide mais rayonnante, et ne demandant qu'un geste de lui pour se jeter dans ses bras et pleurer de joie. « Toi, te voilà enfin, » dit-elle, « mais je ne savais pas par où tu passerais. Je ne savais même pas si tu remontais le Nil, mais j'étais sûre que je te reverrais. Je suis venue ici, j'ai attendu. Oh, j'ai bien deviné que tu fuirais le soleil de la route et que tu prendrais par les bois. » « Oh, que je suis contente! Il me semble qu'il y a 3 jours que je t'attends. Je ne sais plus, mais ce qui m'est arrivé est si extraordinaire !» Et elle ajouta plus tristement, « Tu es resté bien longtemps près d'elle. » Bion se tenait immobile et la regardait avec quelque gêne. « Mais ma petite enfant, qu'est-ce que tu viens faire ici ?» « Comment ? » s'écria-t-elle, « mais je viens pour te suivre, pour rester avec toi, toujours, toujours. » « Tu viens pour me suivre, et hier, quand ton père t'a donné à moi, tu t'es sauvée comme une chèvre folle. Je ne te plaisais pas hier soir, et je te plais ce matin sans raison. Oh, tu as des caprices singuliers. » La pauvre fille se tut, puis fondit brusquement en larmes, et appuya le long d'un arbre son petit corps nu secoué de sanglots. Plus que tous les ennuis, Bion détestait les scènes touchantes. Il frappa du doigt l'épaule de l'enfant et lui dit « Adieu, retourne chez ton père, tu lui feras plaisir. » Et il s'en alla tranquillement. Mais elle courut à lui. Elle le prit par son manteau, par ses bras, par son cou, et dit à la hâte « Mais j'irai où tu iras. Je t'aimais hier comme aujourd'hui. Je n'ai jamais aimé personne. Je n'aime que toi, je n'aimerai que toi. Je suis partie hier parce que j'ai été jalouse de ma sœur, parce que je ne pouvais pas te partager avec ma sœur, ni t'aimer devant elle. Si je ne m'étais pas enfuie, tu m'aurais prise en passant, et tu m'aurais déjà quittée. Après toi, je me serais prêtée à un autre et à un autre, et ainsi jusqu'à mon mariage. Sais-tu que ma sœur a déjà connu plus d'étrangers que je ne te dirai, en ouvrant 7 fois mes 2 mains? Et moi aussi j'aurais fait cela? Oh, je sens si bien que toute ma vie, j'appartiendrai au même homme, au premier qui m'aura saisi. Et c'est toi, celui-là. Emmène-moi, garde-moi toujours, je veux être ta femme et te suivre. » Bion, très ennuyé, répondit « Ma chère petite, tu raisonnes comme une enfant. Tu dis toi-même que tu n'as jamais aimé personne, et j'en suis bien convaincu, car dans les bras de son premier amant, la femme rêve déjà au second, et dans son cœur, c'est lui qu'elle aime. Tu verras cela un peu plus tard. Il n'y a aucune raison pour aimer toujours le même homme. Te condamnerais-tu à dormir toute la nuit sous le même toit, à porter toujours la même robe ? À manger toujours du même fruit? L'amour n'est pas un sentiment qui soit très différent des autres, mais de tous c'est le plus abondant. C'est pour cela qu'il faut le partager. Les dieux ont semé sur ta bouche un amour assez généreux pour satisfaire toute une armée. Tu n'as pas le droit de priver les autres du plaisir qu'ils espèrent de toi. Quand ta sœur sera mariée, tu resteras seul chez ton père. Alors des voyageurs passeront encore, qui depuis longtemps auront quitté leur foyer et le lit sacré de leurs noces. Fatigués du soleil et de la longueur de la route, ils se délasseront par tes soins. Tu peux enchanter leur ennui et laisser dans leur existence le souvenir d'un jour heureux. Ainsi, par la suite des jours, la diversité des tendresses, la promptitude des adieux, tu comprendras peu à peu qu'il ne faut pas s'attacher par l'amour, et tu choisiras plus sagement l'homme à qui tu donneras ta vie. Mais pourrais-je jamais mieux choisir, n'es-tu pas? Oh, je sais. Je suis sans doute le meilleur, le seul, et tu es bien certaine d'avoir trouvé ton rêve. N'est-ce pas? C'est cela que tu allais dire. Eh bien, vois comme tu t'es trompé. Si je t'aimais ici dans ce bois, je te laisserai aussitôt après, ainsi que j'ai laissé ta sœur ce matin. Dans l'état où tu es, il vaut mieux ne rien faire et nous quitter simplement. Tu avais fait un choix déplorable. Essaie de l'oublier et va-t'en tout de suite sans tourner la tête. Dans la maison sur le Nil, tu retrouveras ton père affligé, le foyer de ta famille et les images des dieux. Tu reverras ta sœur aînée et elle t'apprendra la vertu véritable dont tu ne connais que les apparences. » Il embrassa sur la joue et reprit sa route entre les arbres. Mais il n'avait pas encore disparu au-delà des grands buissons de fleurs jaunes quand il entendit pour la 3e fois courir et pleurer derrière lui. Alors il s'emporta tout à fait. « Je te défends de me suivre. »«
Je ne peux pas te quitter, ne me chasse pas. Je ne demande plus à être femme puisque tu refuses de m'aimer. Je supplie pour rester près de toi. Je t'appartiens, fais de moi quelque chose. Je serai ton esclave si tu veux. »
Mion dénoua froidement sa ceinture, la serra comme un pargne autour des traînes de l'enfant, accrocha sur l'épaule nue la courroie du sac gonflé avec la gourde et le pétase, et d'une voix indifférente, « Va devant, » dit-il. Cette histoire causa quelques scandales, et les femmes ne furent pas éloignées de penser que Bion était un homme abominable. Ce fut bien pis quand Réa, qui voulait toujours connaître la fin derrière des récits et le sort de tous les personnages, eut demandé « Qu'arriva-t-il ensuite ?» Car Cligna se termina ainsi. Avant le soir du même jour, Bion la vendit comme esclave à un chef nomade de la plaine, et il ne sait pas ce qu'elle est devenue. Oh, les femmes s'indignèrent, mais Trazès parlait déjà. C'était son devoir le plus évident. Ne lui avait-elle pas dit « Je t'appartiens ». Le propre des choses qui appartiennent est de pouvoir être vendu. Il n'y a rien à dire là contre, et d'ailleurs c'était une petite sotte qu'il a bien fait de négliger. Mais l'Andoyon ne fut plus sévère. Ces gens-là, dit-il, sont tous trop vertueux. Il ne faut pas juger les choses sous le rapport du bien et du mal. Ce sont des considérations qui varient selon les climats et dont on a beaucoup exagéré l'intérêt. La seule règle de vie qui semble légitime, c'est le souci de la beauté. Si l'enfant était joli, ce que Clignas a omis de nous dire, Bion a commis une faute grave en la vendant à un nègre imbécile qui méconnaîtra le charme de ses lignes et la grâce de ses mouvements. Elle avait le nez court, répondit Clignas, les lèvres lourdes et la peau brune. Bon, dans ce cas, il fallait pas s'occuper d'elle, déclara Mélandrillon. Chapitre 1. Au-delà de Thèbes et de Hermontis, au-delà de Silcilis et d'Ombos, Bion avait remonté le Nil. Même il avait passé l'île Éléphantine, où finit la terre d'Égypte, et il s'avançait vers la noire Éthiopie, qui est proche des bornes du monde. Il n'avait pas de barque pour vaincre le cours lent du Nil, du fleuve, car il eût fallu des esclaves pour manœuvrer les avirons, et il avait craint de s'imposer des compagnons sans intérêt. Aussi voyageait-il à pied, le long des rives molles et herbues, si étroites que la route longeait parfois le pied des falaises multicolores, où commençait exactement l'infini montueux du désert. Cette mince bande de terre vivante entre deux mornes solitudes, cette voie de champs d'or et d'herbes splendides, fendue jusqu'aux deux horizons par la lumière verte du Nil, retentissait de cris d'oiseaux, stridents et pressés, dans l'air, sur le fleuve, sous les herbes hautes, fourmillant aux branches nues des baobabs obèses, comme d'étourdissantes cigales, perpétuellement. Des autruches et des girafes arpégeaient au loin les prairies. Des troupeaux d'antilopes fuyaient comme des nuages blonds. Les singes se suspendaient en grappes fantastiques aux souples branches des sycomores, et parfois dans la vase du Nil, où se suivaient comme de longues fleurs les pas effilés des ibis, Bion contemplait avec étonnement la formidable empreinte humaine laissé par ce mystérieux amanite, bête que les hommes n'ont jamais pu voir, mais dont les Éthiopiens font d'étranges récits. Et Bion, inquiet, se persuadait que les colosses de granit rose, sculptés dans l'épaisseur des montagnes, allaient pendant les solitaires nuits se baigner jusqu'aux genoux dans le fleuve saint qui est père de tout. Car, si loin de Thèbes et de Memphis, les restes de la splendeur égyptienne duraient encore en pays impie. Depuis longtemps, les autochtones avaient repris la terre sur les conquérants, et pourtant la face de Ramsès était pour jamais gravée aux falaises, par les souverains du Nord avaient donné leur forme aux roches que le ciseau des esclaves a pu entamer, mais que le temps ni Zeus ne détruiront plus. C'était l'hiver. Les nuits s'enveloppaient de fraîcheur brumeuse. Les jours éthérés persistaient dans l'accablement. Bion cherchait l'ombre et les sources dans les forêts de Mimosa, où les lions se retiraient du soleil et dormaient jusqu'au lever du soir. C'était là aussi que vivaient les hommes barricadés dans leurs cabanes par des palissades de dattiers. Bion était leur hôte de nuit en nuit et les quittait au premier matin. Chapitre 2. Or, un soir, « Enfin !» s'écria Lampito. « Tu parles bien, dit poliment Philina, mais tu es trop pompeux. Et puis pourquoi nous as-tu donné une petite description de l'Égypte avant de commencer ton récit ? Oh, je suppose que cela n'a rien à voir avec la suite de l'aventure. » « Soyez indulgente, répondit Clinias. L'histoire de Bion est très simple. Je pourrais vous la dire en deux mots, mais ensuite, il faudrait en trouver une autre, et la chaleur ne me permet pas cet effort d'imagination. D'autre part, c'est une courte scène qui ne saurait être développée. Il faut bien que je la prépare avec quelques phrases inutiles, si je veux avoir fait un conte de la même longueur que les autres. Tout cela est sans réplique, ne m'interrompez plus. » Un soir, comme il avait marché longtemps sous un rayonnement douloureux, et que déjà ses pieds fatigués portaient la marque tressée des courroies, il approcha d'une maison brune et verte, élevée seule au bord d'une île avec de la vase sèche et des stipes en croisée. Des palmiers lourdement chevelus croissaient nombreux autour d'elle, et elle était à ce point envahie par les larges herbes du fleuve qu'on l'eût dite flottante sur l'eau même, ou en péril dans un marais. L'épaule reposée contre un arbre, Bion immobile regarda. Deux jeunes filles, devant l'ouverture de la porte, rieuses par moments, se parlaient. L'aînée était debout dans une grande étoffe bleue à franges, nouée sous les aisselles, drapée jusqu'aux genoux. Ses innombrables cheveux noirâtres étaient séparés en mille petites tresses minces et dures qui encadraient de près un visage aux yeux luisants et aux grosses lèvres et ne retombaient pas au-delà de ses délicates épaules carrées. Elle pliait les reins à une barrière basse. Elle riait un peu et balançait la tête. La plus jeune n'était pas vêtue car elle était presque une enfant. Elle se tenait assise sur ses talons, la tête penchée entre les genoux, et piquait de petites fleurs jaunes entre ses oreilles, orteils écartés. Il les regardait vivre et ne se montrait pas. Il contemplait la maison. Ce lieu, mystérieux comme tout ce qui apparaît pour la première fois, lui semblait défendu parce qu'il avait l'étranger, le solitaire et d'inconnu. Une famille vivait là. Depuis combien de temps? Quelle quantité de tristesse et de bonheur furtif avait fait joyeuse ou morne cette hutte de boue et d'arbres? Qui l'avait bâtie? Qui l'avait habitée? Quelle mort, quelle naissance avait-elle veillé? Il sentait que tout ce qu'il pourrait apprendre ne lui dirait jamais rien sur elle, et qu'à jamais ce coin perdu lui demeurerait impénétrable. Le soir se levait rapidement, Bion enfin se montra. Aussitôt les deux filles avec de petits cris se retirèrent vers la maison ouverte. Mais il n'approcha pas et dit simplement « Je demande l'hospitalité ». « Le père est au champ, répondit l'aîné. Attends qu'il soit venu, il t'accueillera. » Bion appuya son bras contre un arbre et tourna ses yeux vers le Nil, importuné par les regards curieux qui se fixaient sur sa personne. Longtemps après le soleil couché, l'Éthiopien arriva, suivant un bœuf blond aux cornes effilées. Et dès qu'il parlut, les deux filles parlèrent à la fois.
« Il y a un étranger, il demande hospitalité. Oui, il est seul, là, près de l'arbre. Nous ne l'avons pas laissé entrer avant ton retour. Nous avons bien fait, père. »
Le maître fit trois pas dans l'obscurité et dit à voix haute « Sois le bienvenu, entre chez moi. » Quand ils furent entrés dans la salle et qu'on eut allumé les lampes de notre terre cuite, « Ah, voici l'eau, le pain, les fruits !» dit l'Éthiopien. Ils burent et mangèrent. Et l'hôte ne parlait pas, sachant qu'il est indiscret de poser des questions à qui n'y a pas répondu d'avance. Celle dont le corps brun était drapé de bleu apportait des mets, versait l'eau des cruches. La cadette s'était reculée jusqu'à la paroi terreuse et les mains serrées sur la bouche considérait l'étranger. Quand le repas fut accompli, l'hôte se leva. « Il est temps de gagner ton lit, je sais les devoirs de l'hospitalité. Voici mes deux filles, la plus jeune n'a pas connu d'homme encore, mais elle est déjà à t'approcher. Va et prends ton plaisir avec elle. » Bion n'ignorait pas cet usage, et il le vénérait comme une tradition de vertu singulière. Les dieux visitent souvent la terre, habillés en voyageurs, en soldats ou en bergers, et qui reconnaîtrait un mortel d'un Olympien qui ne veut pas se nommer ? Bion était peut-être Hermès. Il savait qu'un refus de sa part eût été pris pour un outrage. Aussi n'eut-il ni surprise ni gêne, quand l'aîné se pencha vers lui et découvrit ses jeunes seins, pour les lui donner à baiser. Sans parler, sans bouger, l'enfant regardait leur scandale et se tenait la tête en avant, les mains retombées comme en rêve. Après un instant de pâleur, tremblante, prête à pleurer, elle se précipita dans la porte ouverte. La nuit se referma sur elle. Le père, alors, levant les bras à son tour, marcha jusqu'au seuil et plongea les yeux dans l'ombre profonde où sa fille emportait à jamais l'honneur perdu de sa maison. Chapitre 3. Le soleil était brûlant quand Bion s'éveilla et prit son sac de peau pour continuer sa route. La maison déserte. Il regretta de ne pas rencontrer l'hôte, mais ne s'étonna point de ne pas revoir la compagne de la nuit. Elle avait trop de sagesse pour se livrer à un adieu. Il se mit en marche. Le chemin qu'il suivait le long des roseaux du Nil était si éblouissant qu'il le quitta bientôt pour un petit sentier qui traversait les champs marécageux et se dirigeait vers le bois. Un hippopotame endormi avait écrasé tout un champ de riz sous sa vaste chair lilas et roses, et la dévastation qui l'entourait était le fait de sa gueule poilue. Bion l'eut rapidement dépassé. Peu de temps après, il entrait dans l'ombre des mimosas. Un cri joyeux l'arrêta, un cri si tendre, si reconnaissant, si gonflé de bonheur parfait, que Bion se retourna vivement avec un sourire involontaire. La petite fugitive était là, devant ses pieds, nue comme la veille, un peu timide mais rayonnante, et ne demandant qu'un geste de lui pour se jeter dans ses bras et pleurer de joie. « Toi, te voilà enfin, » dit-elle, « mais je ne savais pas par où tu passerais. Je ne savais même pas si tu remontais le Nil, mais j'étais sûr que je te reverrais. Je suis venu ici, j'ai attendu. Oh, j'ai bien deviné que tu fuirais le soleil de la route et que tu prendrais par les bois. Oh, que je suis contente. Il me semble qu'il y a 3 jours que je t'attends. Je ne sais plus, mais ce qui m'est arrivé est si extraordinaire. » Et elle ajouta plus tristement, « Tu es resté bien longtemps près d'elle. » Bion se tenait immobile et la regardait avec quelque gêne.
Mais ma petite enfant, qu'est-ce que tu viens faire ici? Comment? S'écria-t-elle, mais je viens pour te suivre, pour rester avec toi, toujours, toujours. Tu viens pour me suivre, et hier, quand ton père t'a donné à moi, tu t'es sauvé comme une chèvre folle. Je ne te plaisais pas hier soir, et je te plais ce matin sans raison. Oh, tu as des caprices singuliers. La pauvre fille se tut, puis fondit brusquement en larmes, et appuya le long d'un arbre son petit corps nu secoué de sanglots. Plus que tous les ennuis, Bion détestait les scènes touchantes. Il frappa du doigt l'épaule de l'enfant et lui dit « Adieu, retourne chez ton père, tu lui feras plaisir. » Et il s'en alla tranquillement. Mais elle courut à lui. Elle le prit par son manteau, par ses bras, par son cou, et dit à la hâte « Mais j'irai où tu iras. Je t'aimais hier comme aujourd'hui. Je n'ai jamais aimé personne. Je n'aime que toi, je n'aimerai que toi. Je suis partie hier parce que j'ai été jalouse de ma sœur, parce que je ne pouvais pas te partager avec ma sœur, ni t'aimer devant elle. Si je ne m'étais pas enfuie, tu m'aurais prise en passant, et tu m'aurais déjà quittée. Après toi, je me serais prêtée à un autre et à un autre, et ainsi jusqu'à mon mariage. Sais-tu que ma sœur a déjà connu plus d'étrangers que je ne te dirai, en ouvrant 7 fois mes 2 mains? Et moi aussi, j'aurais fait cela. Oh, je sens si bien que toute ma vie, j'appartiendrai au même homme, au premier qui m'aura saisi. Et c'est toi, celui-là. Emmène-moi, garde-moi toujours, je veux être ta femme et te suivre. » Bion, très ennuyé, répondit « Ma chère petite, tu raisonnes comme une enfant. Tu dis toi-même que tu n'as jamais aimé personne, et j'en suis bien convaincu, car dans les bras de son premier amant, la femme rêve déjà au second, et dans son cœur, c'est lui qu'elle aime. Tu verras cela un peu plus tard. Il n'y a aucune raison pour aimer toujours le même homme. Te condamnerais-tu à dormir toute la nuit sous le même toit, à porter toujours la même robe, à manger toujours du même fruit? L'amour n'est pas un sentiment qui soit très différent des autres, mais de tous c'est le plus abondant. C'est pour cela qu'il faut le partager. Les dieux ont semé sur ta bouche un amour assez généreux pour satisfaire toute une armée. Tu n'as pas le droit de priver les autres du plaisir qu'ils espèrent de toi. Quand ta sœur sera mariée, tu resteras seul chez ton père. Alors des voyageurs passeront encore, qui depuis longtemps auront quitté leur foyer et le lit sacré de leurs noces. Fatigués du soleil et de la longueur de la route, ils se délasseront par tes soins. Tu peux enchanter leur ennui et laisser dans leur existence le souvenir d'un jour heureux. Ainsi, par la suite des jours, la diversité des tendresses, la promptitude des adieux, tu comprendras peu à peu qu'il ne faut pas s'attacher par l'amour, et tu choisiras plus sagement l'homme à qui tu donneras ta vie. Mais pourrais-je jamais mieux choisir, n'es-tu pas? Oh, je sais. Je suis sans doute le meilleur, le seul, et tu es bien certaine d'avoir trouvé ton rêve. N'est-ce pas? C'est cela que tu allais dire. Eh bien, vois comme tu t'es trompé. Si je t'aimais ici, dans ce bois, je te laisserai aussitôt après, ainsi que j'ai laissé ta sœur ce matin. Dans l'état où tu es, il vaut mieux ne rien faire et nous quitter simplement. Tu avais fait un choix déplorable. Essaie de l'oublier, et va-t'en tout de suite sans tourner la tête. Dans la maison sur le Nil, tu retrouveras ton père affligé, le foyer de ta famille et les images des dieux. Tu reverras ta sœur aînée et elle t'apprendra la vertu véritable dont tu ne connais que les apparences. » Il embrassa sur la joue et reprit sa route entre les arbres.
mais il n'avait pas encore disparu au-delà des grands buissons de fleurs jaunes quand il entendit pour la troisième fois courir et pleurer derrière lui. Alors il s'emporta tout à fait. « Je te défends de me suivre. »«
Je ne peux pas te quitter, ne me chasse pas. Je ne demande plus à être femme puisque tu refuses de m'aimer. Je supplie pour rester près de toi. Je t'appartiens, fais de moi quelque chose. Je serai ton esclave si tu veux. »
Mion dénoua froidement sa ceinture, la serra comme un pargne autour des traînes de l'enfant, accrocha sur l'épaule nue la courroie du sac gonflé avec la gourde et le pétase, et d'une voix indifférente, « Va devant, » dit-il. Cette histoire causa quelques scandales, et les femmes ne furent pas éloignées de penser que Bion était un homme abominable. Ce fut bien pis quand Réa, qui voulait toujours connaître la fin derrière des récits et le sort de tous les personnages, eut demandé « Qu'arriva-t-il ensuite ?» Car Clinias termina ainsi « Avant le soir du même jour, Bion la vendit comme esclave à un chef nomade de la plaine, et il ne sait pas ce qu'elle est devenue. » Oh, les femmes s'indignèrent, mais Thrasès parlait déjà. C'était son devoir le plus évident. Ne lui avait-elle pas dit « Je t'appartiens ». Le propre des choses qui appartiennent est de pouvoir être vendues. Il n'y a rien à dire là contre, et d'ailleurs c'était une petite sotte qu'il a bien fait de négliger. Mais l'Andoyon ne fut plus sévère. « Ces gens-là, dit-il, sont tous trop vertueux. Il ne faut pas juger les choses sous le rapport du bien et du mal. Ce sont des considérations qui varient selon les climats et dont on a beaucoup exagéré l'intérêt. La seule règle de vie qui semble légitime, c'est le souci de la beauté. Si l'enfant était joli, ce que Clinias a omis de nous dire, Bion a commis une faute grave en la vendant à un nègre imbécile qui méconnaîtra le charme de ses lignes et la grâce de ses mouvements. « Elle avait le nez court, répondit Clinias, les lèvres lourdes et la peau brune. « Bon, dans ce cas, il fallait pas s'occuper d'elle, déclara Mélandrion. »